Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour Francine.
Bonjour Yvan.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Nous sommes aujourd'hui vendredi 10 février et on a eu depuis notre année 2023, depuis nos émissions de 2023, on a eu à peu près toutes les températures.
Oui.
Et aujourd'hui ne fait pas exception.
Non, ça ne fait pas exception et ce n'était pas la plus agréable pour venir à pied. parce que les trottoirs ne sont pas déneigés. Allô, la ville de Montréal! Est-ce qu'on se réveille? Ça serait bien. Les cyclistes parfois partagent leur piste qui n'est pas complètement déneigée.
Uh-huh.
Et à ce gentil cycliste, il y en a eu un sur quatre, mais quand même, ce gentil cycliste qui aurait eu le goût de me faire un doigt d'honneur, mais comme il y avait déjà les mains gantées, ça n'a pas été possible. J'ai pensé peut-être un petit rap. La prochaine fois, il se fera ça dans sa tête. Tiens donc ton guidon, mon garçon.
Ah, mon Dieu! C'est
voilà.
Un bon début de journée, Francine?
Non, c'était bien, mais quand même, c'était pas évident de se rendre ici.
Non, puis pour les piétons, c'est un peu splashant, je pense. Hein?
Voilà.
Les coins de rue sont très à queue.
C'est parce qu'on n'a pas déneigé. Alors, comme on n'a pas déjà déneigé,
là, ça fond,
complètement, puis ça a fondu, ça a gelé. Il y a eu de la pluie par-dessus. C'est ça pourquoi la majorité des trottoirs n'étaient pas praticables.
Et vous, Mathieu, vous êtes venu à pied, vous aussi?
Oui, je suis venu en botte de plastique.
En botte de plastique?
Comme dit mon neveu, en botte de plastique. En botte de caoutchouc, en botte de pluie.
Oui,
oui. En botte à douille, comme disait l'autre.
Les noirs, là?
Non, quand même.
Ils sont pas noirs, les gars?
Mais ils sont noirs, mais c'est pas. Je sais de quel vous voulez parler, là, genre Wellington.
Ah, je sais pas.
Non, des bottes
pour
sur
Wellington,
pour ne pas les nommer.
C'est quelque chose qu'on mange.
Ah oui, le bœuf. Mais
ou,
des bottes Wellington.
Ou une rue qui passe devant le Parlement à Ottawa.
Ou à Verdun.
Ou à Montréal, ou à... Verdun, c'est ça, le long, là, Wellington.
Oui, mais moi, j'ai vécu dans l'Outaouais pendant quelques années.
Chacun sa rue Wellington.
Alors, on a eu franchement une dure semaine. Qu'est-ce que vous avez retenu, Francine?
Bien, dit de cette manière, je vous dirais que il y a eu beaucoup d'événements tragiques, mais je ne commencerai pas par ces événements tragiques. Je ne voudrais pas en réduire leur importance. Au contraire, on va en parler largement dans notre segment consacré au quotidien. Je parlerai cependant d'un gala qui se tenait. Vous savez, on a aboli le gala Québec Cinéma.
Oui.
Pour le moment, en tout cas à Radio-Canada, c'était hier le premier gala Influence Création. Et ce gala, il récompense des influenceurs et des influenceuses. Ça a été mis sur pied par des gens qui se disent, ben écoutez, il y a des choses qui se font bien sur le web. Il y a des gens qui interviennent et qui font du bien. Et Dieu sait qu'on en a besoin.
Oui,
n'est-ce pas?
Sûrement.
Le grand gagnant hier, ça a été un YouTuber qui s'appelle Gurki. Et lui, il fait des expériences culinaires surprenantes sur YouTube. Bon, il y a eu toutes sortes de choses, mais je vous en parle parce que dans notre chronique, dans notre volet par actualité, je vais revenir sur l'auteur et maman autiste Bleuet Atypique. Vous parler de ce qu'elle fait sur le web, et c'est très bien. Elle était mise en nomination dans la catégorie éducation et sensibilisation. Malheureusement, elle n'a pas gagné, mais pour moi, c'est une gagnante. On en parle tantôt.
Je comprends. Oui, effectivement, la semaine qu'on vient de vivre était vraiment éprouvante. Même pour moi, qui n'étais pas directement impliqué dans aucune de ces situations-là, je parle de tremblement de terre, je parle de l'accident à Laval, etc., moi, j'ai senti quelque chose. Mais effectivement, on va essayer de faire une émission où on va mettre le projecteur sur aussi d'autres événements sans oublier ce qui s'est vraiment passé. Moi, de mon côté, cette semaine, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je suis allé voir Gaspard Blues au théâtre Jean Duceppe. C'était... D'abord, j'ai vu Gaspard Blues au cinéma Once Upon a Time, là, ça fait longtemps. Et j'ai fait exprès de ne pas aller le revoir.
Oui, parce que sans ça, vous êtes dans la comparaison tout le temps.
Oui, c'est ça. Et j'amenais, c'est une tradition depuis longtemps, un de mes neveux avec son copain, qui, eux, n'avaient aucune idée qu'est-ce que c'était, Gaspard Blues. On leur avait raconté un petit peu l'histoire un peu au début, comment c'est, l'histoire du garage, de quartier, etc., là, mais sans aller plus dans les détails. C'est une pièce que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. La présence musicale est étonnante. Elle est presque omniprésente. Tous les comédiens, sauf un, je pense, sont des musiciens aussi. Alors, c'était très musical. Il y a un côté, dans Gaspard Blues, vous savez, il y a un des fils qui joue de l'harmonica. Alors, ça faisait partie aussi de ça. Et le jeu de Martin Drainville...
On en a beaucoup parlé. Et performance exceptionnelle. Ça se résume comme ça.
Avec si peu de mots, il faut qu'il joue le rôle d'un père des années 70, 80, je ne me souviens plus. Peut-être un peu. Non, 70, 80. Quand est-ce que le mur de Berlin est tombé? 89? OK, on est près de 90.
Merci Mathieu, parce que moi, ma petite mémoire des dates,
Mais ça fait partie des papas qui étaient des gens de peu de mots et qui a trouvé la façon d'exprimer son amour à chacun de ses trois enfants de façon différente. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça et les gens qui m'ont accompagné aussi.
Également, même oui. S'ils n'avaient pas vu le film.
Tout à fait. Ben là, il y avait le goût d'aller voir le film. Alors voilà. Et notre émission d'aujourd'hui.
Bien chargé. Alors, et c'est sûr que ce matin, on va revenir sur différents événements dans notre lecture et des quotidiens et autres. Chronique Histoire, Marcel Dugas nous amène à Washington. Il va nous parler de l'assassinat d'Abraham Lincoln en 1865.
D'accord.
Du côté techno, on va parler des mots-clés qui vont peut-être disparaître avec ChatGPT et des mots de passe
le fameux ChatGPT
qui pourrait se changer en phrases de passe pour une plus grande sécurité.
Ah, moi j'ai ça.
Et pour vous?
Je ne sais pas si vous allez parler de la même chose, mais moi j'ai
probablement, ça. Probablement, oui. Deux, mais il y en a toujours qui sont précurseurs, mais on n'est pas tous comme vous, Yvan. Alors voilà, je vais en parler. Et vous avez deux invités quand même fort intéressant.
Une invitée qu'on connaît bien parce qu'elle revient une fois par mois, c'est Jocelyne Richard de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain qui va nous parler de spinning. D'ailleurs, j'ai vu sa photo. Je reçois des communiqués réguliers de cette association-là. Alors, je l'ai vue en photo sur un tandem en train de faire du spinning. Je vais la taquiner là-dessus. On va parler de raquettes et de ski alpin. Là, j'espère que la neige va rester. Et je vais parler aussi à une personne qui est étonnante. C'est un monsieur qui s'appelle Dominique Marceau. Il a subi un accident en 2004. Il est devenu paraplégique. Vous devriez voir son agenda. Il y a tellement de choses. Il fait tellement de choses dans une semaine. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va être capable de couvrir en 10 minutes avec lui, mais ça va être sûrement passionnant. Restez avec nous. Alors, ça fait un petit peu notre émission d'aujourd'hui et ça commence, comme à l'habitude, avec un duo.
Je creuse et je sonde toutes mes rides, tous les silences de la ville. J'avoue, je t'ai cherché un peu. Je fuis les qui ne voit rien. quelqu'un d'autre et m'en aller. Je ne veux plus partir de moi. Je voudrais me croire amoureuse. Je ne serai plus une fille.
Fille à porter, Ariane Leroy et Adrienne Lou Cassidy. Ou Lou Adrienne.
Lou Adrienne.
Il manque des mots dans mes titres de chansons.
Ariane Roy qui est Révélation Radio-Canada 2021-2022. Et Lou Adrienne Cassidy qui est artiste de l'année au Gala Alternatif de la musique indépendante du Québec tout récemment. Francine Léune.
Oui, Léune. Alors évidemment, nous allons commencer par la tragédie de Laval. Le Journal de Montréal, tout le Québec en deuil. Plus d'une centaine de personnes ont participé à une vigie aux chandelles hier soir à Laval en hommage aux petites victimes de la garderie. Alors, plusieurs reportages sont consacrés à cet événement. Dans Le Devoir, on dit « Doudou ici, ici, morale en berne ». Et on fait référence aussi à des éducatrices du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui veulent prêter main-forte à la suite du drame survenu mercredi matin. Un peu partout au Québec, les services de garde ont hissé des doudous ou des drapeaux blancs en solidarité avec le personnel et les enfants de la garderie emboutis par un autobus mercredi à Laval. D'ailleurs, cet article du Devoir est accompagné d'une magnifique photo où on a deux toutous enveloppés dans deux doudous et avec un beau cœur, deux anges partis trop tôt. Ouais. C'est très émouvant, cette photo. Les éducatrices de l'Académie Les Mini-Amours, situées à Chicoutimi, ont été ébranlées comme beaucoup, en fait, comme toutes les éducatrices de garderie, et ont été ébranlées par le drame vécu par leurs consoeurs de Laval. Et tout de suite, elles se sont posées la question « Comment on peut aider ?» Et on s'est dit qu'on pouvait aller sur place si c'était nécessaire. Donc, on est prête à prêter main-forte à Laval, indique Raphaël Laforêt-Allard, qui est la propriétaire de la garderie, si le besoin est. Et il serait là, elle serait là, parce que la plupart sont des femmes, n'est-ce pas, lundi prochain, le matin. Alors, c'est un beau geste de solidarité. La presse plus aussi consacre plusieurs écrans à cet événement. En une, tragédie de Laval, unie devant l'horreur, de la douleur, de l'incompréhension, mais aussi une grande solidarité. Élus, voisins et citoyens bouleversés sont venus manifester leur appui aux familles endeuillées au lendemain d'un drame sans nom. Dans un des écrans de la presse plus, on consacre, en fait, on essaie de comprendre ou d'éclaircir le mystère qui reste entier pour l'entourage du chauffeur. Alors, on parle de sa vie à Sept-Îles. Il a étudié, entre autres, au cégep de Sept-Îles avant de s'en venir à Laval, où il a aussi étudié au cégep Montmorency à Laval. Et évidemment, dans les deux cas, c'est la consternation. Personne n'est capable d'expliquer ce geste compte tenu, je dirais, de la personnalité de ce jeune homme à l'époque. C'est intéressant aussi de lire ce matin, il y en a plusieurs qui en parlent, mais pas Journet a souvent les bons mots pour décrire certaines situations, savoir être utile. Parce que, évidemment, dans ces situations, les grandes tragédies, on sait que les politiciens se présentent sur le terrain. Et est-ce qu'ils ont leur place? C'est la question que certains pourraient se poser. Et c'est là-dessus que revient Paul Journet ce matin. Et évidemment, la question, après avoir répondu oui, la deuxième question, c'est que dire pour être réconfortant? Et évidemment, il souligne simplement là-dedans que le premier ministre lui-même, le premier ministre Legault, premier ministre Trudeau aussi a participé, des ministres fédéraux, etc., a dit aux gens, il faut en parler. C'est juste cette phrase, c'était très intéressant. Et aussi, il parle, je dirais, de toute l'émotion qu'a suscité chez, entre autres, Gabriel Nadeau-Dubois et Pierre-Paul Saint-Pierre Plamondon.
Oui.
Je m'excuse. Toute l'émotion qu'a pu susciter leur visite, parce qu'ils sont de nouveaux pères.
Ils sont des jeunes papas.
Des pères, c'est ça. Récents, très, très récents. Alors, voilà pour cette situation Laval. Évidemment, on n'a pas fini d'en parler parce qu'il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Aussi, si je reviens à d'autres titres, dans le Journal de Montréal, on parle du décès de 6 personnes, une famille entière de Lanaudière qui meurt dans un incendie. On en fait état également à la une de la presse. On dit que les corps de 2 adultes et de 4 enfants ont été retrouvés dans les décombres. Belle nouvelle, hein, ce matin. Toujours bon,
cette semaine, en fait. En
une du Journal de Montréal. Ce soir, JE, comme on le sait, à TVA, 21h30, consacre généralement son émission à des reportages d'enquête. Et ce matin, il va parler de... on va parler de la violence envers les éducateurs, envers les enseignants dans les écoles qui est en progression. Et entre autres, on va parler du cas de Nathalie Hébert, une technicienne en service de garde qui va quitter son emploi bientôt. Elle est traumatisée par 2 attaques survenues en 3 ans. Et c'est des attaques, je vous dirais, assez violentes. Même si c'était des jeunes la première fois, c'est un solide coup de poing à l'œil de la part d'un jeune de 6e année et ça a entraîné un décollement de sa rétine et une commotion cérébrale. Et par la suite, elle a aussi été agressée une autre fois et cette fois des blessures au bras et au visage. Alors c'est cette réalité qu'on va décrire et dont on va parler largement avec plusieurs entrevues qui ont été faites sur le sujet. Dans Le Devoir, j'y reviens maintenant. Là, on ne peut pas, je pense, passer sous silence ce qui se passe en Turquie. Alors, on est rendu à un décompte qui amène plus de 20 000 morts dans les séismes en Turquie et en Syrie. C'est le dernier bilan, mais ça ne cesse d'augmenter. Les organismes humanitaires s'inquiètent particulièrement de la propagation du choléra qui est réapparu dans ce pays déchiré par la guerre civile depuis 2011. Il y a des convois d'humanitaires qui sont arrivés. Le premier est finalement entré jeudi dans les zones rebelles de la Syrie, puisqu'on parle beaucoup de la Turquie, mais on sait qu'il y a aussi une partie du territoire de la Syrie qui a été touchée, puisqu'on y compte près de 3400 morts. Enfin, sur un autre ton, ce n'est peut-être pas de même nature, mais c'est quand même une triste nouvelle. Et là-dessus, je vais vous laisser en parler, Yvan. C'est les 300 emplois en péril aux îles de la Madeleine qui fait aussi l'objet de la une au journal Le Devoir.
Oui, bien, c'est une entreprise qui s'appelle La Renaissance des îles. C'est une entreprise de transformation des pêches. Et il y a aussi une cantine, il y a toutes sortes de choses. Et ils sont vraiment très endettés à tel point qu'ils vont finir par sombrer. Son plan de relance a essuyé le refus de ses créanciers hier, confirmant sa faillite et laissant quelques 300 employés dans les limbes. Une coopérative de pêcheurs demande maintenant à naître des cendres de l'entreprise. Donc, c'est majeur pour les îles.
C'est ça pour l'économie de la région, hein,
tout
je crois.
Tout à fait, oui. On s'en va maintenant du côté de l'Estrie. Parler à Monique.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, Monique, comment allez-vous?
Ben, ça va très bien, malgré, comme vous le disiez fort pertinemment, tous les événements. Alors moi, je vais peut-être vous apporter des bonnes nouvelles. Je vous parle d'abord d'éducation. Alors que certains soutiennent indéfectiblement notes et pourcentages, eh bien, à l'école plein cœur de Richemont, les évaluations non chiffrées, accompagnées d'explications des enseignants, ben, ils font grimper la motivation des élèves. Certains enseignants souhaiteraient même que les bulletins laissent tomber les notes formelles pour parler de progression et de compétences. Mm-hmm. Ce léger flou permet des... Attendez, avant, je vais vous décrire les cibles. Alors, depuis 3 ans, il y a les élèves de 3e cycle qui connaissent donc les évaluations non chiffrées dans l'établissement. Ils ont utilisé des pictogrammes en forme de cibles. Je vous les nomme. Il y a 4 cibles. La première, wow, dans le mille. La deuxième, bravo, bien visé. Troisième, bien, cible atteinte. Et la dernière, oh, presque. Alors, il y a un léger flou, vous pouvez le deviner, qui permet quand même d'éviter la comparaison entre jeunes. Alors, ceux-ci savent s'ils ont rempli les attentes et doivent lire les commentaires pour savoir quelles sont leurs forces et leurs défis. Les plus forts et les plus faibles ont tous le même nombre de commentaires. Ils ont tous des défis et des forces. Maintenant, je vous parle souvent de la voie de contournement de Mégantic. Oui. Mais cette fois-ci, vous devinez, je vous parlerai du de Mégantic, hein? la série de 8 épisodes qui a débuté hier soir sur Illico. Il y a Steve Bergeron, qui est journaliste pour La Tribune, qui a fait un article à ce sujet. Et voici quelques faits saillants. C'est probablement ce qu'il y a de plus touchant dans la façon dont les concepteurs de Mégantic ont imaginé la série de 8 épisodes inspirée de la catastrophe du 6 juillet 2023, c'est-à-dire construire une communauté. Des personnages dont les liens se resserrent d'un chapitre à l'autre et auxquels on s'attache inévitablement, et dont l'histoire est racontée avec suffisamment de pudeur. Alors, il nous dit d'oublier la bande-annonce rendue publique en janvier, un condensé qui en aura peut-être découragé plusieurs de regarder la série. Dans les 2 épisodes, le premier et le troisième, qui ont été dévoilés à la presse lundi à l'auditorium Montignac de la Mégantic, il nous dit que le drame est suffisamment bien distillé pour moduler l'intensité et ne pas tomber dans l'insupportable. Lors du visionnement de presse, le réalisateur Alexis Durand-Brault, la productrice Sophie Lorrain et l'auteur Sylvain Gay ont répété que cette série a vu le jour parce que des familles des victimes du déraillement l'ont demandé, qu'elle est une façon de rendre hommage à leur courage, leur solidarité et leur résilience, mais que les gens de Mégantic ne sont pas le principal public visé. Alors, on espère qu'il y aura de nombreuses personnes qui iront voir, qui regarderont cette série sur Illico. Maintenant, je passe à l'environnement. Alors, le conseil municipal de Saint-Denis-de-Brompton s'est engagé à agir concrètement dans le cadre de la COP15, à arrêter le déclin de la nature et à freiner la perte de biodiversité. Il s'agit de l'une des 19 municipalités qui ont répondu à l'appel du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, le CRE, qui a invité les municipalités de la région à adopter une résolution en ce sens. Alors, pour ce faire, la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton devra prioriser les habitats d'espèces indigènes, les milieux humides des riverains et les espèces naturelles environnantes. Il devra aussi soutenir les projets d'air protégés sur son territoire pour atteindre, comme toute la province ou le Canada, la cible de 30 % d'ici 2030 et protéger immédiatement et durablement les habitats des espèces en situation précaire. Enfin, elle s'engage à assurer un meilleur contrôle des espèces exotiques envahissantes, et Dieu sait qu'il y en a, pour limiter leur progression et à éliminer tous les pesticides dangereux aussi d'ici 2030. Les milieux naturels, finalement, devront également être accessibles aux citoyens. Alors, voilà de belles initiatives. Alors, c'était vos nouvelles des cantons de l'Est.
Merci beaucoup, Monique Kirouac, et au plaisir de se reparler la semaine prochaine.
Avec plaisir. Au revoir.
Au revoir. Du côté de Québec, et c'est un article que j'ai pris dans La Presse, aussi bizarrement que ça puisse paraître, le maire de Québec a fait parvenir, le maire de Québec, Bruno Marchand, a fait parvenir une lettre datée du 25 janvier à deux ministres du gouvernement, Geneviève Guilbeault, qui est la ministre des Transports, et Jonathan Julien, qui est ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, leur demandant formellement d'entamer les étapes qui mèneront aux travaux de conversion de l'autoroute Dufresne-Montmorency en boulevard urbain. Cette voie rapide qui a été construite au début des années 1970 en plein quartier populaire relie la colline parlementaire aux banlieues de l'Est. La ville s'inquiète de sa dangerosité. Un accident a fait 4 morts sur cette autoroute en 2021 dans l'arrondissement de Beauport et un autre accident frontal lundi a relancé le débat. C'est un enjeu de sécurité, mais aussi de pollution d'air. Parce que quand le rapport sur la qualité de l'air à Limoilou est sorti la semaine dernière, un des premiers enjeux était le transport routier, a expliqué cette semaine le maire de Québec. Les partis en opposition à Québec sont totalement avec le maire Marchand dans cette démarche, mais la décision finale va se prendre au ministère des Transports du Québec. Et finalement, du côté du droit, on dit que il y a beaucoup de RPA, de résidences privées pour aînés, qui ne sont toujours pas munis de gicleurs automatiques. Et devant le fardeau financier qu'un tel équipement représente, le Centre intégré de santé et de sécurité sociale de l'Outaouais s'attend à ce que de petites ressources ferment leurs portes lorsque la date butoir pour l'installation des gicleurs arrivera en décembre 2024. Ce qui fait le tour des unes dans plusieurs régions et dans plusieurs journaux. Au retour, je vais parler avec Dominique Marceau à Au-delà des limites. On se reparle dans quelques instants.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
Comme si j'y croyais, j'ai pris ce train pour ailleurs et pour demain. J'ai embrassé 2-3 filles, quelques garçons, puis je leur ai dit non. Je vais là où le vent me porte, je fais toujours en quelque sorte le grand voyage. Une guitare et quelques mots, chaque soir je reprends à zéro mon grand ouvrage, comme si j'y croyais. Comme si j'y croyais, je vis des vies libres de tout chagrin. Mes journées ressemblent à des nuits, à d'autres nuits qui ne ressemblent à rien. Quelques coups et quelques caresses, je casse mes cordes, je ronge mes lestes et je m'enfuis. Grandir, c'est décevoir un peu, il faut s'appliquer si l'on veut rater sa vie. Comme si j'y croyais. C'est d'y croire sans l'infini, de vivre dans le noir. Avec la lumière et le vent, pour se l'allier, j'ai le souffle coupé. Sans me soucier des jours qui viennent, je m'enfuis à travers la plaine, et cette fois. Plus de faux départs, plus de doutes, plus aucun chat noir sur ma route, puisque j'y crois, puisque j'y croyais. Oh.
Simon, Simon et Pomme qui chantaient comme si j'y croyais.
Merci beaucoup. Maintenant, je vais m'entretenir avec Dominique Mercier et non pas Marceau. Mille pardons, je vous ai mal annoncé tantôt. Dominique a eu un accident en 2004. Il est maintenant paraplégique, mais c'est une personne aux mille projets. Il est père et nouvellement grand-père. Il est conseiller père, PAIR, cette fois-là. Bénévole à Mémo Québec, à Moelle-Épinière et Motricité Québec. Responsable du développement des affaires au groupe AFI et créateur de Paradome Podcast. Alors, on a 10 minutes pour parler à peu près de ces affaires-là. On va commencer tout de suite. Bonjour, Dominique.
Bonjour, Yvan.
Alors, de quoi a l'air votre agenda, vous, pour la semaine prochaine?
Ouais, mes agendas sont occupés à toutes les semaines. Évidemment, j'ai toujours mille et un projets, comme on dit.
Oui.
Et déjà, pour commencer, en fin de semaine, je vais me diriger vers Québec pour aller participer au Carnaval de Québec. Et la semaine prochaine, ça va être le retour sur les rives de Montréal pour, évidemment, travailler à temps plein.
Mais est-ce que vous faites aussi, vous êtes père bénévole pour la région de la Montérégie? Pour oui. Mémo Québec. Ça, c'est en plus de votre travail, évidemment.
Oui, exactement. En plus de mon travail, c'est ce qui est intéressant avec mon travail, c'est qu'on me donne un peu la liberté de faire du bénévolat aussi en même temps. Parce que moi, je travaille pour Groupe AFI depuis 15 ans maintenant. Et c'est une entreprise adaptée. C'est ce qui est intéressant au niveau de l'entreprise, parce que nous, principalement, on embauche des personnes avec des limitations.
Mm-hmm.
Puis, évidemment, aussi, on a beaucoup de flexibilité pour consolider le côté personnel et professionnel en même temps. Alors, ça me permet d'être bénévole aussi pour Mémo Québec.
Ce bénévolat, il consiste en quoi?
Ben, principalement, c'est je dirais au niveau de l'intégration sociale pour des personnes, parce que la manière dont ça fonctionne, quand une personne vient tout juste d'avoir un accident, donc un blessé médulaire, mm-hmm. Sont suivis par des conseillers en intégration qui sont dans les centres de réadaptation. Après ça, souvent, les gens, par la suite, sont souvent laissés à eux-mêmes. Hein, parce que quand on retourne chez soi, c'est une autre réalité.
Ouais.
Quand du jour au lendemain, comme dans mon cas, moi, c'est une paraplégie complète que j'ai, on ne marche plus, mais la réalité change énormément. Puis dans un centre de réadaptation, la vie peut paraître quand même assez belle, je dirais, parce que tout est adapté. Mais quand on retourne chez soi, ben là, on est confronté à des endroits ou des pièces non accessibles. Fait que mm-hmm. mon rôle commence un peu d'aider les gens à ce niveau-là, puis surtout d'organiser des activités avec mes mots là, pour rassembler les gens, là, pour briser l'isolement des gens.
Est-ce que vous travaillez particulièrement avec les personnes qui sont dans cette nouvelle réalité-là ou aussi leurs proches? Parce que pour eux autres aussi, la vie est changée.
Oui, ben effectivement, ça couvre, ça leur donne vraiment tout. Hein. Parce qu'il y en a qui sont célibataires, il y en a qui sont avec des conjoints ou des conjointes. Moi, j'étais en couple quand j'ai eu mon accident. J'ai eu une séparation. On s'est entendu, comme je dis, on s'est laissé en bon terme avec la mère de mes enfants.
Mm-hmm.
Et donc, j'ai quand même la réalité de couple aussi. Moi, j'organise des fois des rencontres individuelles, des rencontres avec des personnes, mais je vise beaucoup sur le côté de l'intégration sociale au niveau des activités, pour que ce soit des sorties de couple ou des sorties des petits cafés rencontres pour discuter de plusieurs sujets, là, parce qu'évidemment, la réalité change comme pour la personne qui a un handicap et pour la personne qui vit avec la personne qui a un handicap.
Mm-hmm. J'ai regardé sur YouTube des présentations qui vous concernaient et une qui m'a intéressé beaucoup, c'est le résumé de vos 18 ans, ce que vous dites là, 18 ans en fauteuil roulant.
Oui,
et je vais essayer de faire un résumé rapide de ce que vous faites. Donc,
oui.
Il y a une photo où vous faites du camping. Vous conduisez ou pilotez un 4x4, une voiture régulière, une moto, bien sûrement adaptée, une moto marine, un vélo à main, un avion, un planeur. Vous faites de la planche à pagaie. J'en ai probablement manqué. Vous jouez au badminton, au bowling, au basketball. Vous voyagez beaucoup.
Oui.
J'ai même vu une photo avec vous étiez dans un fauteuil roulant adapté sur le sable. Vous partagez beaucoup de temps avec votre famille, particulièrement votre conjointe, vos enfants mm-hmm. qu'on voit grandir à travers le diaporama et votre petite fille, je crois.
Oui, effectivement. Fait que non, c'est moi j'ai un peu la mentalité d'essayer, hein, parce que c'est sûr qu'on ne réussit pas toujours du premier coup des choses là. Puis évidemment avec l'aide, tu sais, je veux dire, j'ai un groupe d'amis. Je dirais, j'ai pas beaucoup d'amis, hein. Tu sais, je veux dire, on peut les compter sur les deux doigts de ma main, mes amis. Mais avec de l'aide, avec la famille, puis on réussit quand même à accomplir des choses assez intéressantes. Là, puis comme je dis, on essaie et on fonce dans la vie.
Parmi d'autres photos que j'ai notées, vous avez fait le Père Noël. Vous êtes bénévole raccompagnateur à Opération Père Noël. Ça, j'aimerais bien voir la réaction des gens qui embarquent dans votre voiture. Vous avez tondu le gazon. J'ai vu, vous avez patenté quelque chose pour tondre le gazon, pelleté. Puis vous avez même eu la COVID dernièrement.
Oui, ben effectivement, au mois d'octobre, l'année passée, c'est là que je soulignais justement mon 18 ans de paraplégie, puis on a terminé ça avec la fameuse COVID. Mais oui, comme je dis, tombe de gazon avec mon quadriporteur, avec une petite pelle en avant qui sont réussis à faire quelque chose d'intéressant. Puis c'est ça, la COVID, elle a quand même été, je dirais, assez difficile au mois d'octobre. Là. Ça a été deux semaines que là, j'ai pas fait grand-chose pendant ces deux semaines-là. Mais ça nous fait réfléchir. Hein. C'est quand on fait plus rien, c'est là qu'on réalise des fois que la vie ne tient pas à grand-chose.
Là. Et à travers toutes ces photos-là, c'est laquelle votre favorite?
Écoute, c'est j'aime tout ce que je fais, mais c'est sûr que le côté familial avec mes enfants puis ma petite fille, là, c'est quelque chose qui est agréable. T'sais, aujourd'hui, mes enfants sont quand même de jeunes adultes, hein, ils ne sont plus à la maison. Fait que ça, il y a ce côté-là qui est un peu difficile en tant que papa. T'sais, nos enfants, on les aime toujours. Mais dès que je fais quelque chose avec mes enfants, là, puis ma petite fille, là, c'est vraiment ça me touche.
Il y a Francine Forget qui a levé la main devant moi pour vous poser une question.
Bonjour, oui. M. Mercier. Vous avez créé Paradum Podcast.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a amené à le faire? Quels étaient vos objectifs? Puis est-ce que ce que vous avez fait au départ, je veux dire, c'est encore les mêmes objectifs aujourd'hui?
Moi, je dirais que oui, ça fait plus d'un an que je travaillais sur ce projet-là. Mon fils m'a aidé énormément parce que moi, j'ai jamais fait de diffusion Internet ou des choses comme ça. Puis c'est vraiment dans le sens de faire découvrir aux gens qu'est-ce qui est possible de faire malgré notre handicap, montrer que la vie n'est pas terminée, que ce soit par des témoignages de personnes aussi qui ont des handicaps, qui réussissent à passer à travers, puis de parler de l'accessibilité ou quoi que ce soit. Souvent, on en parle beaucoup, mais il n'y a pas de concret qui se fait. À partir de mes podcasts, c'est un peu le but de faire connaître notre réalité, puis de voir que malgré tout, on peut avoir une vie heureuse quand même.
Et ça a commencé tout récemment, je pense.
Le podcast, oui, effectivement, j'ai commencé ça, dans le fond, là, pour souligner mon 18 ans, donc de paraplégie. Donc, au mois d'octobre passé, j'ai fait mon premier épisode. Le premier épisode était concentré vraiment sur moi-même. Le titre, c'était un peu ma conférence que j'avais donnée dans le passé, « Bien vivre avec son handicap ». Mm-hmm. Par la suite, une fois par mois, j'alterne. Le mois suivant, je vais parler d'une association qui ont pour cause des personnes avec limitation. Puis le mois suivant est toujours le témoignage d'une autre personne qu'un handicap quelconque, là.
Je vois. Francine, vous aviez une autre question, non?
Non, ça va, j'ai eu la réponse.
Moi, j'en ai une autre question.
Oui.
J'ai fait la liste de quelques-unes de vos photos sur YouTube. Ça va être quoi la prochaine photo?
Ben, la prochaine photo, je dirais, ça va être sûrement une photo avec le bonhomme carnaval, parce que...
en fin de semaine?
Oui, ben c'est ça, en fait, seulement parce que, tu sais, même si ça fait 18 ans que j'ai une paraplégie, moi, je suis pas un fervent de l'hiver. Hein, tu sais, oui, on n'a pas le choix d'aimer l'hiver parce qu'on est au Québec, mais je me suis donné le mandat de cette année d'être un peu plus actif parce qu'on m'a vu, oui, je suis très actif l'été.
L'été, c'est
mais
vrai.
L'hiver, je fais un peu moins de choses. Fait que...
Alors là, ça vous démange?
Oui, ben effectivement. Puis tu sais, découvrir, comme je dis, parce que quand même, on peut faire du luge, genre le site semble être bien accessible au niveau du site de carnaval. Il y a du skidoo aussi qu'on peut faire dans la région de Québec, la région adaptée. Du skidoo adapté, pas de la région adaptée. Mais ça, je dis pas que je vais faire ça en fin de semaine. Non, on va commencer par se rendre à Québec, puis on verra par la suite là, qu'est-ce qu'on pourra faire.
Alors, c'était une beaucoup trop courte conversation avec Dominique Mercier. Merci beaucoup d'avoir passé un peu de temps avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
Qui, comme vous le voyez, est impliqué dans toutes sortes de choses et des choses qu'on ne soupçonne pas encore. On peut le suivre sur YouTube et on peut le suivre sur son podcast Paradum, qui est Paradum, c'est pour paraplégique, je crois, et Dom pour Dominique.
Oui, ben, c'est exactement ça. C'est l'abréviation de paraplégie et DOM qui est mon surnom de Dominique.
Un gros merci encore et on va suivre vos péripéties du futur.
Ben, merci beaucoup.
Au revoir.
Très bon, bonne journée.
Nous en sommes maintenant rendus à notre chronique hebdomadaire d'histoire avec Marcel Dugas qui, cette semaine, va nous retransporter aux États-Unis. Je dis retransporter parce qu'on se tient pas mal là depuis, quoi, 3 semaines, Marcel?
Ben, je pense que j'étais au Québec la semaine précédente, mais la semaine dernière, je vous ai parlé des débuts de la ville de Washington.
Oui.
Et c'est ce qui mène à mon sujet de cette semaine. Parce que sauf pour le dernier chapitre, j'avais arrêté mon histoire de Washington au moment de la guerre de sécession américaine qui commence en 1861. Je vous ai donc pas parlé d'un des événements les plus marquants de l'histoire de la ville, l'assassinat en plein théâtre devant un parterre rempli de spectateurs du président des États-Unis, Abraham Lincoln, en avril 1865. Lincoln est né dans la pauvreté en 1809 dans l'État du Kentucky. Il disait avoir fait à peu près un an de scolarité pendant sa jeunesse. Il s'est essentiellement éduqué lui-même. Après s'être installé en Illinois, il devient un avocat en vue. Il gagne bien sa vie. Il se fait élire à la Chambre d'Assemblée de l'Illinois. Puis, il va servir un mandat de 2 ans à la Chambre des représentants des États-Unis. Et c'est l'entièreté de son expérience politique lorsqu'il est choisi comme candidat du tout nouveau Parti républicain qui avait été créé quelques années plus tôt en vue de l'élection présidentielle de 1860. Et franchement, il fallait être un peu fou pour pouvoir devenir président des États-Unis à ce moment-là. Ça fait des décennies qu'on se déchire entre politiciens du Nord, où l'esclavage avait été aboli et où l'industrie prenait de plus en plus de place, et ceux du Sud esclavagistes, où l'économie repose très largement sur l'agriculture. Et le contentieux entre le Nord et le Sud ne porte pas sur l'abolition de l'esclavage à proprement parler. Les politiciens des deux blocs votaient au Congrès pour favoriser le modèle économique de leur région, ça va de soi. Mais leurs intérêts étaient tellement divergents que les compromis étaient presque impossibles à obtenir. Et le pays s'agrandit rapidement pendant les premières décennies du 19e siècle. À chaque fois qu'on ajoute des États ou des territoires, c'est la guerre entre les deux pour savoir si ces nouvelles terres seraient esclavagistes ou non. Parce qu'un nouvel État où on permet l'esclavage, ça veut dire de nouveaux politiciens qui vont venir grossir le bloc sudiste et vice-versa. On assiste donc à un affrontement pour le contrôle des leviers économiques du pays, plus qu'une noble croisade portée par de grands idéaux. Il faut dire que la politique, c'est rarement une noble croisade portée par de grands idéaux. La situation atteint un point critique au moment de la présidentielle de 1860. Même si Lincoln ne proposait pas d'abolir l'esclavage, même s'il s'était déjà prononcé contre le vote des Noirs, contre le mariage mixte, il était farouchement opposé à l'expansion de l'esclavage et c'était trop pour le sud du pays. Il est élu uniquement grâce aux États du Nord. En fait, il n'a obtenu aucun vote dans 9 des États du Sud et je ne dis pas de vote au collège électoral selon ce bizarre système qu'ont les États-Unis. Littéralement, personne n'a voté pour lui dans 9 des États du pays. Une situation unique dans l'histoire américaine. Entre son élection en novembre 1860 et son inauguration 5 mois plus tard, il y a 7 États qui ont fait sécession pour former les États confédérés d'Amérique. La crise avait atteint un point de non-retour. Et lorsque les confédérés tirent sur une forteresse de Caroline du Sud qui était toujours sous contrôle du gouvernement de Washington, il devient évident que le conflit allait se régler par les armes et que les États-Unis d'Amérique ne permettrait pas aux États confédérés d'Amérique de perdurer. En 1863, Lincoln déclare que tous les esclaves des États du Sud sont maintenant libres. Il a travaillé à faire adopter le 13e amendement à la Constitution abolissant l'esclavage dans le pays, des mesures qui demeuraient incomplètes tant que la guerre ne serait pas gagnée. Et elle a été très, très longue, très coûteuse, cette guerre. La victoire de l'Union, donc, les États-Unis allaient demeurer ensemble, ça n'a été confirmé qu'en avril 1865. Et cette victoire-là va entraîner de grandes célébrations, on imagine, à travers le Nord, tout particulièrement à Washington. Et parmi ceux et celles qui ont assisté aux réjouissances, se trouvait le deuxième acteur, et je le dis sans jeu de mots, de la tragédie qui allait bientôt s'écrire. Il s'appelait John Wilkes Booth, 26 ans, et je dis sans jeu de mots parce que Booth était un comédien de théâtre réputé. Il venait d'une famille, une des familles de comédiens les plus célèbres du pays. Il était originaire du Maryland, un État esclavagiste qui n'avait pas fait sécession. C'est un État sur la frontière entre le Nord et le Sud. Mais Booth, personnellement, était farouchement pro-esclavage. Il détestait les abolitionnistes, donc ceux et celles qui prônaient l'abolition de la pratique, et détestait par-dessus tout Abraham Lincoln, qu'il considérait comme un tyran et comme la source de tous les maux du pays. Avec un groupe de sympathisants sudistes, il va élaborer un projet d'enlèvement du président des États-Unis, très, très ambitieux. Ses complices potentiels lui disent « ça n'a aucune chance de fonctionner ». Mais dans la journée du 14 avril, donc 5 jours après la fin effective de la guerre, Booth se rend au théâtre Ford, qui était situé à quelques coins de rue de la Maison-Blanche, et il apprend que le président Lincoln va assister à la représentation de la soirée. Voilà l'opportunité qu'il attendait pour venger la Confédération. Il enverrait deux de ses complices assassiner le vice-président et le secrétaire d'État des États-Unis, alors que lui, qui connaissait bien le théâtre Ford pour y avoir déjà joué et pouvait y entrer à sa guise en tant que comédien célèbre, s'était donné le rôle principal, assassiner Abraham Lincoln. On est à une époque où le président n'est pas continuellement entouré d'un bataillon de gardes du corps comme c'est le cas aujourd'hui. Booth se rend sans difficulté dans une antichambre de la loge présidentielle qui était située tout juste à côté de la scène. On joue une pièce qui s'appelait « My American Cousin ». Et Booth, qui savait ménager son effet, connaissait bien le texte. Il a attendu un moment précis où il y a un grand éclat de rire dans la salle. Il entre dans la loge présidentielle à ce moment-là et tire une balle dans la tête de Lincoln. Et pour compléter le portrait, il saute sur la scène depuis la loge présidentielle et profite de la confusion pour sortir par une porte arrière en fourchant son cheval qui l'attendait dans une ruelle. Il y a plusieurs médecins qui étaient dans la salle, ils accourent auprès du président. On va vite conclure que la blessure est mortelle et qu'il n'y a rien à faire. Lincoln est transporté dans une pension située de l'autre côté de la rue. On ne le ramène pas à la Maison-Blanche, on ne l'amène pas dans un quelconque hôpital. Il va rendre l'âme dans cette pension-là le lendemain matin. On lance une chasse à l'homme sans précédent. Le gouvernement fédéral offrait une récompense de 50 000 $ pour l'arrestation de Booth, qui est une somme inouïe à l'époque.
Tu comprends, ça représente quoi en dollars d'aujourd'hui? Savez-vous, je ne veux pas vous tendre un piège, mais...
Je ne peux pas vous dire, mais c'est vraiment un montant qui défiait l'imagination à ce moment-là. Si on faisait une comparaison en argent d'aujourd'hui, ce serait un montant impressionnant, mais 50 000 $ à ce moment-là, c'est quelque chose que les gens ne pouvaient pas figurer. C'est un petit peu comme si on disait des milliards et des milliards de dollars.
Exactement. C'est ce pourquoi je vous ai posé la question,
voilà,
Marcel.
C'est dans ces eaux-là. John Wilkes Booth, donc, pensait accomplir la volonté de Dieu. Il sera très déçu en lisant les journaux depuis ses différentes cachettes dans les boisés du Maryland et de la Virginie qu'on ne le considérait pas comme un héros. Il a réussi à échapper aux autorités pendant 11 jours avant d'être cerné dans une ferme de la Virginie et d'être abattu. 4 de ses complices seront jugés et pendus à leur tour. Et la mort d'Abraham Lincoln a déclenché une déferlante de tristesse à travers le pays. Je pense que le mot n'est pas trop fort, à tout le moins le nord du pays. C'était la première fois qu'un président en exercice était abattu. Et c'était pas n'importe quel président. Il avait été victorieux dans les bureaux de vote, sur le champ de bataille. Il avait réussi à garder le pays ensemble. Il est assassiné en pleine gloire. Et il va prendre un côté mythique, d'autant plus que l'attentat a eu lieu un vendredi saint. Donc, les ministres du culte ne se sont pas gênés pour faire un parallèle entre le président qui s'est sacrifié pour nous et Jésus, dont le vendredi saint rappelle la mort sur la croix pour nos péchés. Et le corps de Lincoln après avoir été exposé à Washington, va faire un long, long trajet en train jusqu'à l'Illinois, sa terre d'adoption. On expose le défunt dans 10 différentes villes. Ce sont des centaines et des centaines de milliers d'Américains et d'Américaines qui lui ont rendu un dernier hommage, souvent juste des gens massés le long des voies de chemin de fer pour voir passer le train funéraire. Et Francine, Abraham Lincoln avait déclaré pendant ce très long conflit, « Cette guerre me tue, je ne suis pas certain de survivre assez longtemps pour en voir la fin. » Eh bien, il a vu la fin de la guerre, mais de justesse, il est décédé 5 jours après la fin des combats.
Il avait comme un pressentiment, comme on dit.
Oui, puis il avait, semble-t-il, rêvé à sa mort aussi pas très longtemps avant.
Ah, prémonition.
Voilà.
Bien, merci beaucoup, Marcel Dugas, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre pan d'histoire. C'est toujours aussi intéressant. Merci beaucoup.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Francine, vous en avez glissé un mot tantôt quand vous avez fait vos unes. C'est sur ma feuille de route, c'est écrit « Bleuet atypique, l'influence de Valérie Jessica Laporte ».
Bleuet atypique, c'est Valérie Jessica Laporte, effectivement, qui en est l'auteur. C'est une influenceuse. Et elle a participé au gala Influence Création puisqu'elle était en nomination, comme je l'ai mentionné, dans la section Éducation. Cette femme, Valérie Jessica Laporte, n'a rien de typique. C'est ça pourquoi elle s'appelle atypique. Bleuet, vous pouvez imaginer de quelle région elle vient, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et en plus, c'est sa couleur préférée. Elle porte de longues tresses bleues, elle s'exprime avec volubilité, elle est aussi mère de 3 enfants autistes. Et elle, ce qu'elle veut, avec ses interventions, principalement sur YouTube, mais elle fait aussi des vidéos sur TikTok. Sur YouTube, elle a sa chaîne et elle produit régulièrement. C'est créer des ponts entre les autistes et les neurotypiques. C'est ce qui l'a amenée. Elle veut à faire ces interventions-là. Elle veut démystifier l'autisme à ses centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Donc, c'est intéressant de voir. Et il y a d'autres sites là, qui étaient reliés à ceux qui étaient mis en nomination dans ce gala d'influenceurs, que justement, quand on intervient à titre d'influenceur sur les médias sociaux, que ce n'est pas toujours pour faire des niaiseries, que je mette comme je vais mettre entre guillemets, parce que souvent on est là-dessus, mais on voit que ça peut faire du bien. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui témoigne sur les bienfaits de l'intervention de Valérie Jessica Laporte, puisqu'elle a de longues tresses bleues, et elle dit que sa fille, depuis qu'elle a réclamé de vouloir avoir ces tresses-là. Depuis qu'elle a ça, ça l'aide à se concentrer.
Ah,
parce
oui?
que, je ne sais pas, c'est peut-être le temps mis pour faire les tresses, pour... je ne sais trop, je ne pourrais expliquer ça. Moi, je ne suis pas une spécialiste, mais c'était un témoignage de la maman de cette jeune fille.
Puis, on peut la voir sur YouTube? À quel endroit?
Moi, je vous dirais, c'est toujours la même chose aujourd'hui. Maintenant, c'est bien Bleuet atypique.
Oui,
et YouTube et TikTok. Voilà.
D'accord, merci. On va prendre une petite pause, mais pas tout de suite, parce qu'on a encore un petit peu de temps. Je voulais vous parler que dans la prochaine semaine, à part de la Saint-Valentin, ça va être aussi le début de Montréal en lumière, qui commence le 16 prochain.
Oui, le 16 février. D'ailleurs, on est en pleine installation. Je suis passé par là ce matin. Je suis allé espionner le site.
Puis là, j'espère que la température va permettre, parce qu'il y a quand même un une bonne promenade en patin qu'on peut faire du côté de la place des festivals.
Oui, il y a des tubes dans lesquels on peut glisser. Il avait l'air très démunis ce matin. Ils sont déjà installés, là.
Il avait l'air très démunis?
Démunis parce que les tubes, je ne sais pas comment on va faire pour atterrir quand on va sortir de ces tubes-là parce qu'on était sur l'asphalte.
Peut-être qu'il va y avoir des bottes de foin ou je ne sais pas quoi. Des choses
sûrement
de
qu'on va
genre.
Trouver.
Alors, ça va être à suivre. Il y a évidemment des choses, il y a des restaurants qui font des choses spéciales, il y a des spectacles, etc. C'est à voir sur le site Internet de Montréal en Lumière.
2023, c'est important de googler aussi 2023.
Au retour, on va parler encore de ChatGPT et on va parler avec Jocelyne Richard de l'Association des sports pour aveugles.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Et on commence avec notre chronique techno avec Francine. Et ça il me semble qu'on n'avait pas parlé de ChatGPT la semaine dernière.
Ça faisait 2 semaines. C'est pour ça que votre mot « encore » ChatGPT était peut-être pas approprié. On a pris une pause de 2 semaines. Et on est probablement les seuls à avoir pris une pause de 2 semaines en ce qui concerne ChatGPT. C'est incroyable le nombre de nouvelles qui se publient. Je vous dis que dans une journée, moi, je reçois plusieurs, parce que je suis abonnée à différentes choses, et je reçois plusieurs, soit des blogs ou encore des informations, des reportages sur des sites, que ce soit partout aux États-Unis, en Europe, ici. Alors, on n'a pas fini d'en parler.
J'ai même vu une caricature dernièrement.
Allez-y donc.
Oui, c'est un papa qui demandait à son garçon où est-ce qu'il s'en allait, puis il disait « je m'en vais chez mon ami ». Puis le papa, il disait « il s'appelle comment ton ami? » Il s'appelle ChatGPT.
ChatGPT. Bon, alors voilà. Alors, il avait bien choisi son ami. Alors, pourquoi on en parle cette semaine? Moi, je trouvais ça important parce que il y a eu le lancement, je dis ça comme ça, par Google d'un instrument qui pourrait peut-être faire concurrence à ChatGPT, mais ça semble pas très intéressant pour le moment. Là, c'est la panique est prise, hein? Fait que ce qui arrive, c'est que comme on est en situation de panique, on va lancer des produits qui sont loin d'être prêts. Et dans le cas de Google, j'ai compris que ça n'avait pas été extraordinaire. C'est ça pourquoi je ne me tournerai pas vers eux. Mais par contre, je vais vous parler de Bing. Bing, n'est-ce pas, qui est un moteur de recherche de Microsoft et qui pourrait, en fait, intégrer ChatGPT. Et si c'était le cas, parce qu'on travaille là-dessus, ça serait probablement la fin de la recherche avec des mots-clés. Pas CETRA, sur PresseCitron.net, nous en a parlé cette semaine à quelques reprises. Présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller écrire des mots dans notre espace où le moteur de recherche de Google va se déclencher pour arriver quelque part quand on cherche de l'information. Et on va se trouver sur une page où il y a de multiples sites. D'ailleurs, je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de Google qui voulait mettre des priorités là-dedans, vous faciliter la vie quand vous faisiez des recherches pour qu'il y ait comme un menu déroulant pour pas que vous soyez obligé de toujours cliquer 1, 2, 3, 4 parce qu'à la page, c'est juste à la page 4 que vous allez avoir réponse à votre question.
Oui, c'est vrai.
Alors, cette semaine, évidemment, là, quand ils ont lancé Bard, que ça s'appelle Google, on n'est pas allé très loin de ce côté-là, puis on demeure avec nos vieilles affaires pour le moment. Mais tout va très, très vite. ChatGPT, s'il fait entrer des recherches sur le web, ça va être complètement différent. Premièrement, OpenAI va être intégré dans Microsoft. OpenAI, c'est finalement le créateur de ChatGPT. Et à ce moment-là, on n'aurait qu'à poser des questions plus précises encore et on arriverait à la réponse qu'on veut. Ça pourrait aussi venir d'images, d'un blog qui est publié quelque part, qui pourrait être relayé par des médias comme Twitter ou des choses comme celle-là. Bing agrandirait le champ de recherche, comme je dis, non pas seulement aux mots-clés, mais à de véritables dialogues. Donc, il pourrait avoir d'intégrer là-dedans un chatbot. Donc, on est en direct. Je pose ma question, j'ai une longue réponse, mais j'ai des sous-questions et il y a quelqu'un, le chatbot, on va l'appeler quelqu'un, qui va relancer la chose en répondant à de nouvelles questions. Les recherches auraient une limite de 1000 caractères. Donc, c'est pas mal beaucoup, cela, pour des requêtes. Oui, c'est énorme. C'est parce que des fois, on a besoin de pouvoir expliquer ce qu'on cherche plutôt que de faire 8 recherches, parce que c'est ça, on n'a plus le temps. C'est un peu inquiétant quand on dit ça comme ça, puis j'ai un peu d'ironie dans le ton, là, comme vous pouvez le constater. Mais disons que c'est ça la réalité, c'est qu'on cherche toujours à améliorer la vitesse et la précision. Mais la vitesse vient pas mal en tête de liste. Bing va également arriver avec des suggestions de requêtes. Et comme le chatbot va pouvoir se poursuivre, bien, ça va faire que le robot va vous aider pas mal plus que peut-être vous l'aviez escompté au départ en vous adressant à lui.
Puis le robot, lui, il s'améliore tout le temps.
Il s'améliore tout le temps. Le problème avec ChatGPT présentement, puis c'est ça pourquoi Google se lance à fond de train, parce que c'est vraiment un compétiteur, c'est que lui, ChatGPT, les événements récents, là, il n'est pas là. Il n'est pas là. Comme on a parlé, en fait, je vous dirais qu'il est assez fiable jusqu'à 2021, mais après ça, il n'intègre pas les événements les plus récents. Et ça, ça ne se peut pas aujourd'hui dans un moteur de recherche. Puisque vous et moi, même pour faire cette émission, on est en pleine émission puis on cherche des choses qui viennent de se produire et on veut avoir des réponses. Mm-hmm. Alors, ce n'est pas Chat qui va pouvoir nous aider. Nous n'en sommes qu'au début, c'est sûr, mais on voit que l'accès à l'information va être de plus en plus rapide, de plus en plus complet et on n'a pas fini d'en parler. D'ailleurs, ce matin, il y avait sur le blog de Bruno Guglielminetti 10 ou 15 utilisations à ce moment-ci du chat GPT. Je ne vous en ai pas parlé parce que je sais que c'est assez. Je vais plutôt vous amener sur un terrain que vous connaissez, semble-t-il, oui, les mots de passe qui se transforment en phrases de mots de passe. Alors ça, c'était sur le blog de Bruno Guglielminetti cette semaine. Alors, vous avez déjà adopté cette façon de faire pour sécuriser. Oui. Vous écrivez des phrases avec des lettres et parfois vous n'avez pas le choix à mettre des chiffres ou des symboles votre phrase.
C'est ça.
Et ça remplace le mot de passe.
Oui, puis là, je prends des lettres dans la phrase puis ça fait mon mot de passe.
Vous prenez des lettres dans la phrase et ça fait mon mot de passe. Voilà.
Oui, c'est
Alors, c'est ça. Donc, c'est plus difficile à deviner ou à craquer. C'est pas impossible. Quand on parle de craquer avec des forces brutes, bien évidemment, c'est qu'on essaie, les hackers essaient par différentes combinaisons de deviner votre mot de passe. Alors, si on a 1, 2, 3, 4, quand ils vont faire une force brute, ils vont essayer 3, 2, 1, 4, 4, 2, 1, 3, puis ils vont... Bon, alors évidemment, à un moment donné, ils vont arriver, et c'est ça, et maintenant, aujourd'hui, on a tellement d'outils pour faire ça de façon facile. Alors, c'est intéressant parce que souvent, on n'est pas porté à aller vers ça. Évidemment, il faut que ça soit suffisamment long et complexe. Mm-hmm. Il faut aussi qu'on évite tout renseignement personnel identifiable. On ne met pas son nom, sa date de naissance, son numéro d'assurance sociale. Mais on peut dire, par exemple, j'aime le café noir, des affaires comme ça.
Oui.
Essayons ça. Pourquoi pas? Parce qu'on sait que de plus en plus, même avec beaucoup de sécurité, qu'on réussit à s'insérer dans des places où on ne voudrait pas qu'on s'insère.
Oui, puis ça a la beauté qu'on n'a qu'à se souvenir d'une phrase ou deux, ou trois ou quatre, là, dépendant.
Oui, mais il faut toujours qu'elle soit écrite de la même manière et tout ça. On le sait, quand on fait des transferts, des virements, à un moment donné, on met une majuscule puis on n'avait pas mis la dernière fois et ça cause problème.
Mm-hmm. Mais moi, je trouve que c'est plus facile à se souvenir que de se faire la liste des mots de passe qu'on a puis là, de regarder dans la liste.
Oui, puis on met ça dans notre téléphone puis on perd notre téléphone.
Quelque chose dans le genre. Merci beaucoup, Francine.
Avec son côte en minou bleu, son foulard rouge, son béret noir. Était comme un bouquet frileux au milieu de la patinoire. Moi je patinais sur la bottine, était-ce elle qui m'éblouissait? Était-ce le décor qui glissait? J'avais les jambes en gélatine, je n'en croyais pas mes rétines et j'en perdais tout mon français. Le vent emporta son béret et déploya ses longs cheveux. Elle dut marquer un temps d'arrêt et j'eus le temps de faire un vœu. Que son béret vole jusqu'à moi, que je puisse mieux voir sa frimousse, que je me porte à sa rescousse, qu'on se regarde avec émoi, en souhaitant que le vent me pousse, moi qui patine comme une oie. Le béret soufflé dans les airs semblait ne plus vouloir tomber. Je patinais tout de travers en le voyant se dérober. Était-ce le hasard qui voulut faire preuve de haute précision lorsque j'entrais en collision avec la belle chevelue exécutant pour l'occasion un acrobatique salut. Étendu parmi les étoiles, foudroyé à deux minutes près. Quand le vent releva le voile et fit retomber son béret. Je suis perdu dans ses yeux d'ange et pendant un instant heureux, comme lorsque l'on tombe amoureux, ce moment de curieux mélange où tout est tellement doucereux que vraiment rien ne nous dérange. Toutes ces fées sur qui l'on tombe et dont le secret nous attire, qui nous font l'effet d'une bombe et qu'on laisse pourtant repartir. Dans des circonstances nébuleuses, sans même de contact établi, et qui glissent vers notre oubli, parmi nos amours en veilleuse, sur des patinoires remplies de toutes ces belles patineuses.
Plume la traverse et sa chanson « Les patineuses ».
Ce qui nous amène à parler avec Jocelyne Richard de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Bonjour Jocelyne.
Et bonjour.
Dans l'hebdo info de cette semaine, on vous voit la binette sur un tandem en train, ben pas en train, mais vous apprêtant à faire du spinning.
Oui, c'est ça.
Alors, parlez-nous de cette activité.
Alors, cette activité, elle a lieu les mardis soirs de 6h30 à 8h pour les courageux qui ont le goût de sortir encore. Alors, ça se fait au local de nos tandems.
Mm-hmm.
Et puis, on a notre Mario qui est un bénévole qui anime l'activité en question.
La session. Est-ce oui. que ça se fait avec de la musique?
Pas en tout. On n'a pas le temps. Non.
Pas le temps. Fait que c'est les encouragements de Mario qui vous font. Puis c'est quand même.
On fait le tour du monde des fois.
Oui, j'imagine, parce que en une heure et demie, vous avez le temps de faire le tour du monde.
Ah oui, c'est bien certain. Oui, oui. Il y a toujours quelque chose à compter. Parfois, Mario nous parle de ses deux filles. Des fois, c'est d'autres personnes qui ont des faits cocasses qui s'est passé durant la semaine. C'est un lieu où ce que on n'a pas besoin de musique, en tout cas, je peux vous dire ça.
Et vous êtes combien environ?
Voyez-vous, on a organisé 5 tandems. Mm-hmm. C'est-à-dire que les tandems sont déposés sur le rouleau. Alors, mm-hmm. ils ne bougent pas.
Mm-hmm.
Et puis, nous sommes deux par deux pour les tandems. L'idée de l'activité, c'est surtout de permettre aux gens de se pratiquer durant l'hiver, de sorte que quand on arrive au mois de mai, les gens sont déjà sont déjà formés, sont déjà en forme, ils ont déjà pris le pli de s'asseoir sur un vélo. C'est pas le siège le plus confortable dans la vie, hein?
Ben non, il y a d'autres choses.
C'est ça. Mais non, écoutez, on a 5 tandems, ça veut dire qu'on peut accueillir 10 personnes à la fois.
Mm-hmm.
Évidemment, s'il y avait une abondance générale, peut-être qu'on en ajouterait d'autres, mais il faut dire que cette année, on fait ça au local des tandems. Alors, l'endroit est un petit peu plus restreint,
oui, c'est tout
à fait. Mais on est parvenu à s'organiser tout de même. Les gens étaient bien surpris. Ils pensaient qu'il n'y avait pas de chauffage au local des tandems. Il y a du chauffage. Et puis, disons que le fait de faire de l'activité, je pense qu'on se réchauffe. On n'aurait pas de chauffage, puis je pense que ça paraîtrait même pas.
D'accord. Oui, c'est ce que j'étais pour dire. Vous fournissez vous-même la chaleur en faisant tous ces exercices-là.
Oui, oui. Alors, on est souvent complet, là, 10, comme tel. Là. Cette semaine, nous étions 9, mais je vous dirais, au début, ça a commencé lentement, les deux premières semaines au mois de janvier, mais là, je vous dirais que c'est connu. Les gens savent comment s'organiser. Et puis même nous-mêmes, il fallait s'organiser parce qu'au local des tandems, il n'y a pas d'eau et il n'y a pas de toilette.
Oh, quand même. OK. Oui,
bon, il suffit d'y penser, de réfléchir et puis de faire ce qu'on a à faire au préalable.
D'accord. Et vous faites aussi de la raquette?
Oui, on fait de la raquette. C'est la saison qui n'est pas pire de ce temps-ci, quoi, qu'en fin de semaine.
En fin de semaine, hein,
j'ai des doutes.
Oui, moi aussi.
En fin de semaine, on est censé se rendre à Bois-Belle-Rivière. Souvent, j'essaie de mettre une activité où on peut faire de la raquette, puis du patin, puis de la glissade, parce qu'il y en a qui aiment ça. Le ski de fond, cette année, c'est pas ce qui est le plus vendu à la SAM pour le moment.
Mm-hmm.
C'est plus la raquette, le patin à glace. Alors, en fin de semaine, c'est Bois-Belle-Rivière. J'ai des doutes si on peut y aller, parce que avec le temps doux qu'on vit actuellement, c'est pas certain, mais enfin, on verra. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on va aller faire de la marche, permettre aux gens de sortir, de prendre de l'air, c'est ça.
C'est beau. Et est-ce que vous cherchez toujours quelqu'un, un bénévole sur la rive sud pour une activité de patin à glace?
Oui, je cherche toujours. J'ai d'ailleurs mis une annonce au centre d'action bénévole sur la rive sud pour la recherche de bénévoles. Il y a le patin à glace, mais il pourrait y avoir pour d'autres activités aussi, là. Mais là, pour l'instant, je l'ai mis là parce que j'ai un membre qui aimerait ça d'en faire du patin à glace durant la semaine, principalement.
Puis il voudrait faire ça à quel endroit, lui?
D'après moi, ça dépendrait d'où provient le bénévole. Et le membre, il habite sur la rue Chambly, donc il est en mesure de se déplacer.
Je comprends.
D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu, mais j'ai mis une activité, patin à glace, c'est organisé par une de nos bénévoles,
oui.
C'est pour moi qui l'organise,
oui, oui.
Le 24 février. Alors, j'ai déjà un membre d'inscrit. Ça, c'est au parc Jean-Drapeau.
Oui, oui, c'est un très, très bel endroit aussi.
Oui, et puis comme c'est entre les deux, c'est-à-dire entre le Montréal et Longueuil, on risque d'avoir du monde de Montréal, des bénévoles de Montréal qui, s'ils sont disponibles le vendredi après-midi, de se joindre à ce groupe-là qui veulent aller faire du patin à glace.
Mm-hmm. Ça, c'est le 24 février, je pense. Allez,
oui,
hein?
En après-midi. Oui.
D'accord.
Ben, ce que je peux dire aussi pour les personnes, il y en a qui vont... Souvent, il y a des bénévoles qui nous disent « je n'ai pas de raquette ». L'association, cette année, on a eu une subvention qui nous a permis d'acheter 4 paires de raquettes. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour la situation, pour le moment. Alors, des fois, il y a des gens qui me disent « ben, j'ai pas de raquettes ». Alors, je m'en suis procuré cette année, récemment. Alors, voilà pour le complément de l'information concernant l'histoire des raquettes.
Ben bravo, puis ça va donner peut-être le goût à des gens de s'en acheter tout simplement aussi.
Bien, pour les membres, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a des membres qui n'avaient jamais fait de raquette cette année. Et puis, en l'essayant, en faisant l'activité plus qu'une fois, ils ont décidé d'aller s'acheter des raquettes. Alors, en ayant un petit peu, on va dire, un petit inventaire, ça nous permet de répondre à nos attentes, de répondre à nos besoins et puis aussi de susciter l'intérêt pour certaines personnes qui n'auraient pas eu l'idée d'aller s'acheter des raquettes. C'est quand même une centaine de piastres, une bonne paire de raquettes. Alors, il faut avoir le goût de te l'acheter, là.
Bien, c'est fantastique et je vous souhaite une bonne température dans les prochaines semaines puis on se reparle dans un mois.
Bien, merci beaucoup et passez une belle fin de semaine à tous.
Merci.
Au revoir.
dernière ligne droite dans cette émission, Francine. Qu'est-ce que vous allez surveiller en fin de semaine?
Je surveillais Montréal en lumière, mais là, on en a parlé. Oui, sérieusement, amoureuse du cinéma québécois, comme vous le savez, je vous invite à aller consulter la programmation des rendez-vous du cinéma de Québec Cinéma pour 2023. Les 42e rendez-vous vont commencer sous peu, soit le 22 février, mais il faut vraiment se préparer parce qu'il y a 300 films de tout format qui vont être présentés majoritairement au Cinéma Impérial et à la Cinémathèque à Montréal. Cependant, il y a quand même des lancements ou des choses comme ça qui se déroulent à la Place des Arts, salle Maisonneuve. Mm-hmm. Je vous invite aussi du côté du Musée des Beaux-Arts. La semaine dernière, je vous ai parlé du Centre de design de l'UQAM qui présentait une exposition sur les estampes d'Albert Dumouchel. Le Musée des beaux-arts de Montréal aussi, dans sa section Révélation, a une exposition qui est en vigueur jusqu'au 26 mars 2023. C'est toujours dans le cadre du 50e anniversaire de la mort de Dumouchel, qui est survenu en 2021. Là, on a un peu dépassé le 50e, mais quand même, ça vaut la peine de le souligner parce que c'est quand même quelqu'un qui a fait des estampes exceptionnelles. Et vous savez, en regardant... Je suis allée visiter l'exposition et en regardant l'exposition, je me suis rendu compte jusqu'à quel point il avait suivi l'émancipation du Québec dans son œuvre. On passe d'œuvres religieuses à des sujets érotiques, de sujets très concrets, très figuratifs, à des œuvres abstraites. Donc, c'est vraiment les profonds changements de la société québécoise, on est capable de les voir dans les œuvres d'Albert Dumouchel. Et c'est aussi, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est un grand maître dans le sens qu'il a essayé toutes sortes de techniques. Et évidemment, il a réussi pour faire ses estampes. Si vous allez au Musée des Beaux-Arts, pourquoi pas profiter aussi du temps que vous avez pour aller voir une petite exposition très intéressante, vue de l'intérieur, portrait de l'espace habité. Alors, on a demandé à des artistes, différents artistes, de faire un portrait de l'espace. Et on l'a fait, je vous dirais, c'est vraiment une activité post-pandémie. Comment notre espace a été important pour nous pendant cette période de COVID. Donc, c'est devenu un lieu de création, de réflexion, d'intimité, de guérison, etc., etc., qu'on a souvent transformé parce qu'on sait aussi qu'il y a eu vraiment une véritable mode, un véritable essor de refaire mon intérieur pendant ce temps-là. Tous ceux qui étaient dans le domaine de la rénovation étaient complètement débordés parce qu'on ramait tous dans le même sens en même temps, puis on voulait tous avoir nos affaires en même temps, de même que les meubles, etc. Il y avait des grandes surfaces comme IKEA, pour ne pas le nommer, qui étaient à peu près vides. Voilà. Alors, espace... vue de l'intérieur, je m'excuse, portrait de l'espace habité, c'est aussi au Musée des Beaux-Arts. Et vous, Yvan?
De mon côté, vous serez très surprise, sans doute.
Pas le Super Bowl.
Ben oui.
Ben je l'avais gardé pour moi, pour la fin.
Alors oui, ça se passe dimanche après-midi. En fait, dimanche en début de soirée.
Début de soirée. Même. Je vais pouvoir vous corriger sur début de soirée.
Oui.
Et qui fait la mi-temps?
Oui, qui fait la mi-temps?
Rihanna.
C'est Rihanna qui fait la mi-temps. Rihanna, semble-t-il qu'on ne l'a pas vue sur une scène depuis quelques années, depuis 2016, j'ai lu quelque part. Elle avait déjà été approchée pour faire le spectacle de la mi-temps dans le passé et elle avait refusé. Je ne sais pas, moi, c'est combien de personnes dans le monde peuvent refuser de faire le spectacle de la mi-temps.
Bien, le chèque qui accompagne le spectacle, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup.
C'est ça.
Mais je pense qu'ils n'ont pas payé. Est-ce que ça se peut?
Oh non, ils sont sûrement payés.
Ah. Oui?
Vraiment. Ah oui?
Je ne sais pas.
OK, on va chercher là-dessus. Non, elle avait refusé parce qu'à l'époque, il y avait le carrière des 49ers de San Francisco, c'est Colin Kaepernick, qui manifestait de façon pacifique d'ailleurs sur le côté racial, particulièrement des activités de la police, en s'agenouillant, en faisant une génuflexion pendant les hymnes nationaux. Et d'ailleurs, c'était un bon corps arrière, mais par la suite, il n'a pas été embauché par aucune des équipes. C'est vraiment une histoire à suivre. Francine, vous avez quelque chose?
Oui, je suis contente parce que ça prouve ma culture sportive n'est pas si... Je crois que ce n'est pas vraiment une culture sportive. Donc, effectivement, la NFL ne rémunère pas les artistes. Elle couvre toutes les dépenses des interprètes puis de leur entourage. Donc, les techniciens, membres de famille, amis qui viennent au Super Bowl. Mais malheureusement, Rihanna fait ça gratuitement.
Bon, ben mettons qu'il y a quelques personnes qui vont la voir.
Je pense que la paye est là.
Pendant sa performance. La deuxième chose dont je voulais vous parler, ça, vous ne le savez pas. Est-ce que vous connaissez l'ensemble vocal Katimavik?
Non.
Non.
Katimavik, ça me dit quelque chose, mais pas comme ensemble vocal.
C'est un ensemble vocal qui existe depuis plus de 25 ans. Marie, ma conjointe, a chanté dans cet ensemble vocal-là. Et Patrick Brodeur, qui est le chef d'orchestre, voulait faire ce spectacle-là pour prendre sa retraite avant la COVID. Alors, ça va se faire en fin de semaine. Ça va se faire à la Maison symphonique. C'est le spectacle Skadi. Skadi, c'est une déesse nordique associée à la montagne, la chasse à l'arc et l'hiver. Il va y avoir la présentation de pièces par des chefs d'orchestre suédois et danois, des choses comme ça. Alors évidemment, je vais y être parce que j'ai des amis là. Mais c'est juste pour l'histoire de dire je prends ma retraite en 2020 et... 3 ans plus tard, il fait finalement son spectacle de retraite.
Mais la réalité nous rappelle que souvent, il faut planifier, mais souvent, on prévoit des choses, mais on ne peut pas prévoir l'imprévisible.
C'est ça.
Ce qui est prévu,
oui.
C'est qu'on achève.
Oui.
Alors, est-ce que vous avez d'autres choses sur lesquelles vous voulez attirer notre attention?
Vu que c'est la fin de semaine du Super Bowl, ben, le Canadien joue. Début d'après-midi, c'est à 12h30, et demain, et dimanche.
Avec le sweater bleu?
Oh mon Dieu, je ne le sais pas,
vous
ça.
Vous ne savez
là.
Pas.
C'est la... Oui, ça, je sais.
Vous ne savez pas.
Ils n'ont pas encore gagné avec ce chandail-là.
Non, ça ne va pas bien.
Alors,
pas bien.
C'est le temps des remerciements, Francine.
Oui, déjà, ça a été un feu roulant.
Oui, encore.
Feu roulant.
Encore.
Merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on ne vous a pas trop... essoufflé, chers auditeurs et auditrices. Merci, Yvan. Merci à Mathieu, évidemment, qui est toujours fidèle au poste. Et on vous invite à rester à notre antenne avec Mission Vision qui suit, et à midi, Camille Chaille et ses passions.
Et merci à nos collaborateurs et nos chroniqueurs, Francine, évidemment, Monique Kerouac, Dominique Mercier qui nous a parlé de son emploi du temps incroyable, Marcel Dugas en histoire. On se redonne rendez-vous vendredi prochain, n'est-ce pas, Francine?
On devrait y être et on espère que le temps sera avec nous.
Alors, vendredi prochain à 9h30, ça s'appelle Au quotidien, 5e édition, au Canal M.